si proche, découverte, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour, cette semaine, on va suivre le pas pressé d'une jeunesse qui arpente le monde micro en main. Et le pas plus lent, celui-là d'un violoncelliste américain amateur de randonnée musicale. Rien à voir, me direz-vous ? Pas si sûr, car si le rythme de la marche diffère, les chemins, eux, peuvent se croiser. Et c'est ce qui s'est passé en octobre 2017 au Festival français du voyage du Grand Bivouac à Albertville où nous étions. D'un côté, l'APAGE, ou Association pour l'aide aux jeunes auteurs, y célébrait 10 ans de prix en soutien à la création voyageuse française, sonore notamment, et de l'autre, en marge du festival, sur les hauteurs de Conflans, on pouvait croiser la silhouette élancée d'un curieux quinca, chaussures de rando aux pieds et étui d'instruments en aluminium sur le dos, suivi par un groupe d'amateurs, marcheurs, auditeurs. Oreilles en marche, toutes.
On peut faire ici ?
Sur le chemin.
Enfin, où vous voulez. Vous avez un petit coteau ici, là. Oui. Alors en fait, quand j'ai fait la randonnée musicale l'année passée, on faisait beaucoup de kilomètres avec d'autres gens qui venaient marcher. Et le soir venu, d'autres musiciens qui voulaient participer pouvaient venir pour qu'on fasse connaissance par la musique, qu'on joue ensemble. C'est rare que j'ai arrêté pour jouer en pleine nature. Mais je vais le faire aujourd'hui, tout à l'heure, un peu plus loin. Mais je voulais juste prendre quelques minutes pour faire connaissance avec vous tous. Puis après, c'est mon plaisir qu'on en parle en marchant. J'ai beaucoup appris à apprécier ça pendant la randonnée musicale. Pour moi, c'était nouveau d'apprendre que marcher avec des gens, ça peut être vachement sympa. Il y a quelque chose dans le rythme de la marche qui fait que c'est agréable de se connaître, de faire connaissance. On peut parler de tout, de n'importe quoi. On peut ne pas parler. On peut apprécier de la nature ensemble. On est là aujourd'hui pour ça, et pour faire un peu de musique, et pour parler ou pas, comme whatever happens. On y va?
Et en marche, on va quand même se parler avec Eric Langsworth, musicien et compositeur américain de jazz, passé par Montréal et exilé en France depuis plus de 15 ans. L'artiste à l'âme nomade, et du Yukon au Mali, en passant par le Cap-Vert, il collectionne les projets atypiques entre improvisation et métissage musical. Parmi eux, ce projet de randonnée un peu particulier qui a eu lieu à l'été 2016, depuis le sud de la France, sur 400 km et 26 jours. À Albertville, ce jour-là, pendant le festival, c'était juste quelques heures de marche, ponctuées de pauses musicales.
Voilà ma bête. Et c'est donc ça, c'était un violoncelle normal, avant.
D'une autre vie.
Oui, c'était mon violoncelle de camping. Mais j'ai demandé à un luthier de réduire de moitié l'épaisseur. Normalement, c'est comme ça. Alors, il a fait ça, ça faisait comme un énorme violon. Alors, après ça, j'ai demandé qu'il coupe les rondeurs sur les côtés. Mon espoir, c'était que ça soit assez petit pour rentrer dans les bacs, dans les avions, en cabine. Je pense que c'est encore trop gros. Mais ça a encore du son. Alors, bon. Mais c'est pour ça que j'ai coupé vraiment le maximum. Alors voilà, avec l'étui, l'archet, l'instrument, tout, ça fait à peu près 7 kilos, qui n'est pas beaucoup. Alors pour la randonnée, c'est vraiment top. Quand j'ai les deux sacs à dos à côté, remplis de vêtements et tout ça, ça me faisait 15 kilos. Alors ça va.
Thank you.
Langsworth. Vous venez de faire une rando musicale sur les hauteurs de Conflans. Ça va? Pas trop fatigué?
Ça va.
Ça va?
Ouais. C'était tout court. C'était une petite 2 heures de rando. On a marché à une petite groupe d'une cinquantaine de randonneurs. On a trouvé un bel endroit où j'ai sorti mon violoncelle de son étui et j'ai fait de la musique.
Oui, parce que alors, vous avez choisi de voyager avec un violoncelle, c'est votre instrument. C'est pas le plus simple finalement, vous auriez pu choisir un harmonica ou autre. Donc c'est étonnant aussi ce choix d'avoir comme ça un instrument qui ne se prête pas forcément à la mobilité, au nomadisme, et de décider que ben, c'est pas grave quand même, je pars avec.
Oui, ben j'ai commencé à jouer le violoncelle avant de commencer à faire des randonnées. Et pendant longtemps, je me sentais un peu schizophrène. Dans ma vie, j'avais deux vies où je faisais des longues randonnées dans la nature ou je faisais de la musique. Mais jamais les deux ensemble, il n'y avait pas de lien. Ça fait des années que j'ai ça dans la tête, où j'ai envie que les deux viennent ensemble. Et ce randonnée musicale, c'était une belle occasion pour faire les deux.
Et alors vous avez dit, c'est court par rapport, j'imagine, vous deviez penser à ça, par rapport au grand sentier que vous avez remonté, le sentier des Huneaux. Ça, c'est un projet assez étonnant pour un musicien parce que vous avez décidé d'arpenter ce sentier des protestants pendant un mois à peu près.
26 jours. Oui, l'idée de rando musical, ça découle de ce projet où je suis parti sur le sentier des Huguenots de Pointe-Laval dans la Drôme jusqu'à Genève.
Donc du sud de la France dans la Drôme.
Ouais,
et
voilà.
Vous êtes remonté jusqu'en Suisse.
À 400 km. Avec le violoncelle sur le dos. Et tous les soirs, j'étais accueilli chez l'habitant. Et tous les soirs, je faisais une rencontre musicale où j'invitais d'autres musiciens ou d'artistes ou qui voulaient pour venir faire de la musique avec moi, une espèce de rencontre à l'improviste comme ça. Et j'invitais des gens pour venir marcher avec moi ou venir écouter la musique. Et j'avais aussi envie de faire résonner la notion d'accueil qui est commémorée par le sentier des Huguenots pour l'exil qui s'est passé à la fin du XVIIe siècle.
Oui, parce qu'en fait, pour l'histoire, pas la petite, parce que ça fait vraiment partie de la grande histoire, ces sentiers-là, ce sont des sentiers d'exil.
C'est ça.
Au moment où, en France, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, qui permettait aux protestants d'exercer librement leur culte. Et finalement, en 1685, ça n'était plus possible. Ils étaient victimes de persécutions, dragonnades, on appelait ça. Et ils ont pris ces sentiers.
Pour ceux que les catholiques appellent huguenots, le sol de France devient un enfer. L'exercice de leur religion est interdit. Les écoles réformées sont supprimées. Les protestants n'ont plus le droit d'enseigner, ni de devenir échevins, procureurs, notaires, avocats, médecins, chirurgiens, huissiers ou libraires. Le roi Soleil lutte à main armée pour détruire le droit de penser librement et de vivre selon sa propre conscience. Et le 15 octobre 1685, il révoque l'édit de Nantes signé par Henri IV. Cette loi qui reconnaissait aux Français le droit d'être protestants avait mis fin aux effroyables guerres de religion. En la supprimant, Louis XIV déclenche la persécution et le martyre de 1 250 000 Français protestants.
Il y a quelques personnes qui ont fait un effort monumental pour retracer historiquement les sentiers que les Huguenots auraient pris et de faire un sentier balisé qui fait, en fait, ça, en tout, ça fait 1800 km, presque jusqu'à Berlin. Mais moi, je suis allé jusqu'à Genève, c'était bien assez.
Et est-ce que vous avez réussi justement à collecter cette mémoire? Parce que ça date, c'est déjà plusieurs siècles. Vous arriviez à collecter une mémoire liée à cette histoire?
Oui, beaucoup. J'ai beaucoup senti ça. Il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient au projet, qui venaient pour discuter de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur famille. Et j'ai appris plein de choses sur cet exil-là. Et ça, je trouvais ça très intéressant. En même temps,
pour moi, je voulais vraiment amener ça aujourd'hui, l'accueil des réfugiés en particulier. Aujourd'hui, ils arrivent en bateau ou en camion ou à pied, mais par d'autres sentiers. Mais je trouve juste que c'était un prétexte, quelque part, pour adresser cette idée d'accueil où je trouvais que nos gouvernements étaient un peu lents à prendre le pas, à réagir. Et parler de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à des réfugiés qui arrivent de partout et qui ont besoin d'être accueillis.
Langsworth, vous êtes d'origine américaine.
Oui.
Et forcément, on imagine, vous avez dû connaître les grands espaces, marcher là-bas. Vous avez vécu au Canada aussi, on y marche beaucoup.
L'habitude de la marche comme une activité régulière, c'est plutôt français ou européenne. C'est pas beaucoup comme ça aux États-Unis ni au Canada. Tu prends la voiture, tu penses pas à... Moi, je faisais beaucoup des randonnées tout seul. J'allais dans plein d'endroits où il n'y avait personne. Et c'est ça qui m'intéressait. Mais au Canada, c'est assez facile. On est vite tout seul dans la nature. Et j'allais aussi dans les endroits comme l'Alaska ou le Yukon ou les montagnes rocheuses.
Ah oui, donc tout à l'ouest.
Exprès pour être vraiment dans les endroits où il n'y a pas de sentier, pas de gens à des kilomètres et des kilomètres, pas de route.
Et vous emmeniez votre violoncelle ou pas?
Non, non. Ça, c'était pas possible. J'avais déjà 30 kilos sur le dos, juste parce qu'il fallait être autonome. Tente, sac de couchage, tout ce qu'il fallait que ça soit sur mon dos. Alors, un violoncelle en plus, c'était juste même pas envisageable. Par contre, l'idée de faire le randonnée musicale, c'était possible ici, justement, parce que il y a des petits villages un peu partout. Il y a la possibilité d'être accueilli chez l'habitant. Alors, je n'avais pas besoin de tente ni de tout le reste.
Donc, vous pouviez porter votre violoncelle.
Alors, je portais le violoncelle avec quelques affaires de plus, mais pas beaucoup.
Il y a quelque chose de très joli dans cette image aussi, quand on vous voit partir avec votre étui en aluminium, c'est qu'on pense aux ménestrels, à tous ces musiciens qui prenaient la route. Et on vous imagine aussi suivi. Est-ce que c'était le cas ?
Oui, complètement. Ça me faisait penser à ça aussi. J'avais l'impression d'être un musicien itinérant et ça m'a beaucoup plu aussi. L'idée de juste à chaque soir d'arriver dans un nouveau bled que je ne connaissais pas, de rencontrer des gens et de faire de la musique. Parce qu'avec la musique, on peut rencontrer des gens d'une autre manière. On peut toucher des gens. Ce n'est pas la même chose que juste de discuter. Et de rencontrer d'autres musiciens en musique, ça c'est juste fabuleux.
Parce que tous les soirs, à chaque fois, il y a quelqu'un qui sortait un instrument
Presque à tous les soirs. C'était très rare que je me trouvais tout seul. Quand j'étais tout seul, je faisais la musique quand même. Mais presque tous les soirs, il y avait d'autres musiciens qui sont venus, qui avaient entendu parler du truc, qui étaient curieux. Ça, c'était vraiment chouette. Déjà, j'aime ça beaucoup, des rencontres musicales avec d'autres cultures. Depuis un moment, je joue avec des musiciens africains, ou je joue avec un Iranien. Pour moi, c'est très riche, cet échange la musique que moi je connais qui rencontre la musique de l'autre.
Et vous inventez une autre musique comme un autre pays finalement.
Exactement. On fait une espèce de recette à l'improviste et des fois c'est magique.
Alors il y a un projet que vous avez mené il y a quelques années qui s'appelle le World Kora Trio.
Oui, ça existe encore.
Ça existe encore, ouais, ouais. Vous continuez à tourner avec ce groupe.
Oui, oui, oui. On a passé 3 semaines à Bamako. On a enregistré une partie de l'album là-bas.
Dans un studio mythique. Donc c'est le studio Bogolan.
Oui, à ce studio, mais ça valait la peine d'aller là-bas, de passer du temps à Bamako pour s'imprégner un peu des gens, de la culture là-bas. Il y avait déjà la musique de Sheriff Soumano, qui est le joueur de kora dans le trio. On sent tout de suite la culture mandingue, mais quand tu es là-bas, là, c'est autre chose. Là, tu es vraiment là-dedans. Et avec Sheriff, on a pu rencontrer plein d'autres musiciens. Et du coup, ça donne une autre profondeur, je crois, dans la musique.
Alors, ce type de projet, vous en avez d'autres, parce que des sentiers, il y en a partout dans le monde.
Je n'étais pas parti avec l'idée de continuer à faire ça, mais finalement, oui, j'ai envie. Il y a d'autres projets en train d'être montés, probablement une randonnée musicale à La Réunion, et peut-être une randonnée musicale en Palestine. Oui, on verra, mais je vois qu'il y a de l'intérêt. Et que ça permet de rassembler des gens par la marche et par la musique. C'est possible de sortir de ces difficultés de la parole. Des fois, avec la parole, on n'arrive pas à se communiquer bien.
Vous y arrivez très bien, là.
Non, mais je préfère la musique. Et le rythme de la marche, c'est
le rythme.
C'est super pour échanger avec des gens, pour être dans une sorte de méditation ou silence. C'est souvent quand je marche, j'entends la musique, mais c'est pas la musique qui est écrite ou qui existe. C'est juste quelque chose qui arrive.
Il faudrait qu'on entre dans votre tête.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci Eric Lansworth.
Merci.
Dans la tête et les oreilles de la jeunesse nomade, c'est là que l'on vous emmène pour la seconde partie de Si loin, si proche. Tout de suite, ce sont les nouvelles du monde. On se retrouve dans 3 minutes avec les auteurs de la page et leur carnet sonore. Un voilier en partance.
Au sec. Et en travaux depuis un an et de grosses poussières, entre les mains de 4 copains, animés par cette idée folle de lui redonner vie pour traverser l'Atlantique.
On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait. Ou vous défait.
Mon quotidien, ce sont les voyages.
Voyage, c'est ça.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Il s'appelle Héloïse, Anaïs ou Florian. Ils chuchotent au micro, citent Nicolas Bouvier et trafiquent leur voix tout en capturant les bruits du dehors. Les jeunes auteurs, sélectionnés ou primés par La Page, nous emmènent à l'écoute du monde pour cette seconde partie d'émission. APAGE, c'est l'acronyme de l'Association pour l'aide aux jeunes auteurs, créée en 2006 pour rendre hommage à Erwan Donnelly, un jeune auteur disparu trop tôt. Chaque année, cet organisme français récompense les récits de jeunes de moins de 30 ans dans 4 catégories. Texte, photo, dessin et carnet sonore. Celui qui ouvre les pages du quotidien français Libération est embarqué depuis de nombreuses années vers ses ailleurs et ses regards. Et depuis 4 ans, il y a cette nouveauté de récits sonores en 4 minutes en partenariat avec la radio publique France Culture. Souvent écrit à la première personne et raconté avec l'élan de celui qui veut tout dire, ces carnets sont une fenêtre sur le monde. Mais ils sont aussi, et surtout, le reflet d'une génération globe-trotteur pour qui le voyage est à portée de main et de micro et qui a peut-être un peu besoin de le romancer. Mais la vie, n'est-ce pas aussi un grand roman? De Tokyo à l'Iran. Carnet sonore finaliste 2017, Adrien Segui, sous les arches du Pont Rajou.
J'ai rencontré Shahriar par une nuit froide et étoilée, sous les arches illuminées du pont Rajou, dans la ville iranienne d'Isfahan. Tous les soirs, Shahriar et ses amis se réunissent sous ces arches en secret pour chanter la tragédie de l'existence et les marasmes de l'amour. Je suis revenu plusieurs fois écouter Shahriar et ses amis sous les étoiles. Autour de moi, je retrouve un petit public d'habitués, seul ou en amoureux, discrètement blottis sous les alcôves. Certains viennent avec des thermos de thé chaud et veillent aux cordes vocales des chanteurs, quand d'autres, immobiles et les yeux fermés, laissent leur âme s'abandonner à cet instant d'éternité. Sur leurs lèvres, je peux alors voir le silencieux murmure de ces poèmes d'amour qu'ils semblent connaître tous par cœur. Tous les soirs, sous les arches du pont Rajou, Shahriar et ses amis offrent à leur public et à eux-mêmes des moments d'exaltation que la répression culturelle du régime de Téhéran rend rares et précieux. Une nuit, je suis venu m'asseoir aux côtés de Shahriar sous les arches. Il me chante une chanson empreinte d'une grande mélancolie que je trouve plus belle que toutes celles que j'ai pu l'entendre chanter jusqu'alors. Sa voix emplit l'espace sous nos pieds et se heurte au lit sec du fleuve entre les arches. Je lui demande quel est le sens de ses paroles. Il répond : cette mélodie est dédiée aux ayants d'Héroud, le fleuve disparu d'Isfahan. Zayan d'Héroud signifie le fleuve qui donne la vie en persan. Ses eaux autrefois tumultueuses traversaient alors notre ville, irriguaient ses jardins et abreuvaient notre peuple. On surnommait Isfahan la ville au milieu du monde, car on se rendait des quatre coins de l'Empire pour découvrir sa riche culture et goûter à la fraîcheur de ses jardins. Il y a quelques décennies, l'eau a été détournée en amont et nous avons vu le fleuve disparaître sous nos yeux. Nous venons ici tous les soirs pour chanter malgré les interdictions. Et j'ai composé cette chanson en l'honneur du Zayan d'Héroud, car je n'ai pas totalement perdu l'espoir de revoir un jour ses eaux couler sous ses arches. Voilà déjà un mois que j'ai quitté Isfahan, le pont Rajou et mon ami Shahriar. Un soir, je reçois pourtant un coup de téléphone inattendu de sa part. Le bruit court que les digues en amont d'Isfahan ont été ouvertes, et que les eaux du fleuve Zayan d'Héroud devraient atteindre ses ponts dans la nuit. La nouvelle est extraordinaire. Je gagne les arches de Rajou peu avant minuit. Le lit encore sec du fleuve est parsemé de petits groupes se réchauffant autour de feux improvisés, chacun relayant les informations venant de l'amont et y allant de sa petite prédiction quant à l'heure de l'arrivée des eaux. Les chanteurs sont plus nombreux que d'habitude, et partout sous les arches, chants et clameurs montent vers les étoiles. Je retrouve Shahriar et ses amis près des berges. Devant une foule discrète et exaltée, ils enchaînent balades amoureuses et chansons dédiées aux eaux du fleuve qui s'approchent. Soudain, Shahriar et ses amis interrompent leur chant et je les vois s'évanouir dans la foule. La police est là et disperse le public autour de moi. Dans l'agitation, je perds de vue Shahriar et ses amis. Avant de partir, je regarde le pont Rajou une dernière fois. Je ne sais pas si l'eau doit arriver, Mais ce soir, sous les arches, tous les chanteurs sont partis.
Si loin, si proche, sur RFI.
Elle m'écrivait de Tokyo. Elle m'écrivait de cette ville qui l'avait tant fascinée et qui continue de la surprendre. Elle m'écrivait. Dans le quartier de Shinjuku, coincé entre d'immenses buildings, des commerçants résistent à la verticalité des lieux. Quatre étroites ruelles éclairées par des lampions rouges. Les Japonais viennent en costume se serrer dans des échoppes pas plus grandes qu'un mouchoir de poche. On y mange des brochettes de viande, cuites au feu de bois ou des ramen et engloutir quelques verres de bière. Elle m'écrivait de la gare de Shinokachimachi. Les mélodies du métro de Tokyo me rappellent mon enfance. Chaque station possède ses propres notes, localisation sonore qui compose ma partition quotidienne. Dans les wagons, les jeunes filles se remaquillent en utilisant comme miroir l'écran de leur téléphone portable. Le soir, à l'heure de pointe, ceux qui ont réussi à s'asseoir s'endorment presque tous, bercés par le rythme de la rame. Elle m'écrivait. Ce soir, comme deux fois par semaine, je suis allé au Sento. Ces bains publics où les Tokyoïdes se rendent après le travail. Je me suis déshabillé et j'ai pris ma douche dans la salle commune, assise sur ces sièges en plastique à ras du sol. Dans le miroir, en face de moi, j'ai croisé le regard de cette japonaise, nue comme les autres, qui m'avait montré la dernière fois les bassins à l'extérieur. Alors, le corps plongé dans les eaux fumantes, nous sommes sortis toutes les deux, sans un mot, contempler la lune. Elle m'écrivait. J'aimerais te faire ressentir la gentillesse des Japonais, leur attention délicate, leur respect envers ceux qui ont fait le voyage jusqu'à leur archipel. Ce n'est pas un peuple austère, bien au contraire, mais un peuple joyeux et raffiné, qui a développé une sensibilité toute particulière que je cherche toujours à décrire. Elle m'écrivait. Le dimanche, les jeunes se retrouvent dans le parc Yoyogi, dans le quartier Harajuku. Ils répètent avec entrain d'étranges chorégraphies. À côté, des groupes de chorales s'exercent à l'extérieur. C'est là que j'ai découvert l'existence du rockabilly japonais. Deux gangs de rockers, Santiago et veste en cuir, arborent fièrement leurs bananes et leurs coiffures gominées. Ils se déhanchent ici toutes les semaines jusqu'au coucher du soleil. Je suis resté assise là, plus d'une fois, à regarder leurs figures et leurs gestes. Elle m'écrivait. Sous les rames du métro de Ueno, les Japonais se pressent pour faire leur marché. Œufs de poisson, chaussures, algues séchées. La polyphonie des vendeurs a le pouvoir de me faire oublier l'immensité de la ville. Tokyo, c'est autant de quartiers que de petits villages. Elle m'écrit de Tokyo. Ce matin, je me suis perdu dans le cimetière de Yanaka. J'imaginais mes lettres comme ces lattes de bois couvertes de caractères qui sont posées sur les tombes. Que restera-t-il de mes souvenirs du Japon ? Depuis, je l'imagine. Je l'imagine déambuler sous les néons criards de Kabukicho, regarder les ramasseurs de feuilles dans le parc de Chiyoda, ou assise à côté de cette japonaise, perdue dans cette ville qu'elle a gravée à coups de mots et de sons dans mon imaginaire. C'est peut-être là que restent aussi les souvenirs. Y aura-t-il seulement une prochaine lettre ?
Clément Baudet est lauréat du prix APAGE France Culture en 2015 pour « Elle m'écrivait de Tokyo ». Instantané sonore, Polaroid lointain, on sort désormais son enregistreur aussi facilement qu'un téléphone portable. Selfie, bruit, charivari. On se perd dans le vacarme des grandes capitales et on capte ce qu'il reste d'innocence à un monde post-attentat quand d'autres combattent. Tout de suite, c'est Babix sur RFI. Il rend hommage à Omaya Al-Jbara, une résistante irakienne morte au combat contre Daesh à 30 ans à peine.
Omaya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent, repose. Omaya s'endort sous les mandariniers, dans le vent brûlé. Elle seule sait que bientôt repousseront les roses, repousseront les roses.
Un an que je suis en Pologne, je ne reviendrai pas. Sonia m'a quitté à l'instant, c'est la rupture. Une vérité qui dissipe dans mon cœur une grande souffrance. Heureusement, demain je pars en direction de la Russie. Ceci n'est pas une fuite, c'est un départ. J'ai un petit peu peur. Heureusement, la curiosité palpite dans mon corps entier. Le voyage, c'est la petite aventure du quotidien. On affronte ses propres difficultés et celles du monde, mais le dénouement est toujours heureux. Je quitte la Pologne le soir d'un festival de musique en plein air. Je profite de la douceur de l'été à une terrasse en écoutant une chorale russe. Le premier train en direction de la Russie s'arrête en Ukraine, à Lviv. Il est à 23h42. La nuit débute, mon voyage aussi. Le train fume, déborde de bagages et de gens. Impossible de m'y trouver une place. Les heures s'égrènent avec lenteur. Minuit, 1h, 3h20, 5h. Le jour se lève, je suis toujours en Pologne. Certains quittent le train, j'obtiens enfin un siège. Je sombre d'épuisement, ma nuit débute. 19h, arrivé en gare de Lviv, Ukraine. Les rues grouillent dans une douce atmosphère de soleil couchant et Rostik m'accueille chez lui. J'entends de l'ukrainien et du russe, accompagné par Eric Satie, son compositeur favori.
Де діти? Де наші діти? Мене з'їдає заживо хвороба між півкулями мозку.
Mon vague à l'âme disparaît dans cette paisible atmosphère.
Та ні, чорт з тобою.
Rostik est ukrainien. Il joue de la musique classique et écrit des textes de rock. Il rêve de découvrir la France. Mais le visa et ses finances l'empêchent. Il a l'espoir ferme de voyager grâce à sa musique. Mon objectif reste cependant la Russie. Je continue ma route et ces découvertes ukrainiennes qui m'enchantent. Dans le train, j'apprends que Tchernitsy est la ville de naissance du poète Paul Celan. C'est un écrivain qui me souffle. Je m'y arrête et je déambule sans but à la tombée de la nuit. Le temps est paisible, le soleil descend et dépose un voile roux sur la verdure qui envahit les façades. Dans un café, je rencontre Olga. Nous discutons en allemand et elle accepte de me dire un poème de Pushkin.
Ok. Alexandre Sergeevich Pushkin. Мороз і сонце, день чудесний.
Конжелі солей, о, мервей.
Пора, красавіця, проснись.
От красом
тнутий нігай взори.
Il est temps, belle, éveille-toi, ouvre tes yeux, un de la main fermée. Cours devant de l'aurore des neiges, apparaît. Et toi, du nord.
Звіздою севера явись, вечер. Ти помніш, в'юга злилась.
Olga Petit, et sa volupté me déroute. Nous plaisantons. Échangeons nos adresses pour débuter une correspondance. Mais nous devons nous quitter. Jamais je ne la reverrai. C'était une iskra, étincelle en ukrainien. Une rencontre intense, mais courte. C'est les fatalités, les délices, des voyages.
Super. Das war Olga. Olga von Tchernitsy. Dankeschön.
Maintenant, au milieu de la nuit, je rejoins mon hôte Nathalie.
Bonjour Antoine Lalande-Smet. Mon amour
How to say I like potatoes?
Мені подобається картопля.
Мені подобається картопля.
Мені подобається.
Мені подобається.
Bientôt le départ. La route continue vers la Russie. Mais quelle idée d'avoir pris ce visa. Je crois que je suis heureux en Ukraine. Et si finalement l'Ukraine était mon Ithaque? De l'appartement de Nathalie, j'observe les alentours. La clablante chaleur est tempérée par le souffle léger du vent nocturne. J'embrasse le bonheur. J'ai toute la vie pour aller en Russie. Je reste un peu plus en Ukraine.
Mani podobaitse
katoplyn. You're a disgusting student.
Mani podobaitse katoplyn.
Podobaitse katoplyn.
Podobaitse katoplyn.
Yes.
A ty?
I mani.
Portrait nocturne, Ukraine, par Antoine-Hélène Desmet. Carnet sonore, lauréat 2013. Depuis, Antoine a pris de nombreux chemins sonores jusqu'à en faire d'ailleurs son métier. Il a posé un temps ses valises ici, pas si loin, si proche, de retour de chez les Mentawai en Indonésie ou d'une transhumance en Vallée d'Osso, en France. La radio se faufile à nos oreilles et l'on dit souvent qu'elle fait voyager sans bouger. On ne vous dira pas le contraire. Alors que dire du vélo d'appartement? Carnet sonore d'Elsa Landard, finaliste à page 2014, le tour du monde en vélo d'appartement.
€15 sur le bon coin. Donc j'ai rajouté les sacoches, les feux, les freins, j'avais un rétroviseur mais j'ai récupéré pour le mettre sur le triporteur.
Carte routière, réserve, route secours, très important.
On a commencé à pédaler en octobre 2013, octobre-novembre. Donc, Vichy, Espagne, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tanzanie, j'ai peut-être en oublié, Turquie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, la Chine, la Mongolie, l'Indonésie, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon, le Canada, le Groenland, l'Islande, le Danemark, la Suède, l'Écosse et la France et Vichy. Et là, on a fait à peu près 35 000 km et on est à 200 km de Novosibirsk. En 2012, c'était en novembre, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais être malade. Donc avec Fabien, qui est l'auteur avec lequel je travaille depuis pas mal de temps, j'ai proposé à l'éditeur Elitis le tour du monde en vélo d'appartement qui a éveillé son intérêt. Et 2 mois après, j'apprenais que je suis atteint de la maladie de Parkinson, donc méchante claque, quoi. Pour combattre l'atrophie musculaire, il fallait que je pratique intensément le vélo d'appartement. Donc j'ai relancé l'éditeur en lui précisant ce qui m'arrivait. Il m'a dit que ça serait chouette de développer en parallèle au récit du voyage fantasmé le côté journal de bord. Donc l'idée, si je pédale une heure par jour, je fais 16 km par jour, donc au bout d'un mois ça fait tant de kilomètres. Pour les photos, c'était de faire appel aux internautes et aux amis pour qu'ils m'autorisaient à redessiner les photos des pays que j'étais censé traverser, ils me racontaient des anecdotes. C'est un peu comme si je les avais vécues moi-même, du coup j'ai plein d'anecdotes que je pourrais raconter. Le fait de les dessiner, c'est vrai que c'est dessiner une photo, c'est se l'approprier, quoi. Donc, lors du diagnostic, c'est vraiment une grande claque qu'on se prend dans la gueule. Et puis on a vraiment le moral dans les chaussettes. Et puis il faut se débrouiller pour partir. Et puis il y a le vélo. Et puis donc on prend confiance en soi en pédalant. Et je fais des trucs que je faisais pas quand j'étais valide, quoi. Ça m'a amené à faire l'acquisition d'un triporteur que j'ai remis en état. Et là, je fais du vélo pour de vrai. Donc le triporteur étant stable, ça me permet de pédaler sur les routes et les chemins sans avoir des problèmes d'équilibre qui m'empêchent de faire du vélo normal. J'ai eu l'impression parfois de franchir des frontières parce qu'il y a le contournement de Vichy qui est en train d'être tracé et il coupe des routes. Donc il y a des chicanes avec des panneaux rouges et blancs, il y a des talus qu'il faut escalader, comme si je passais la frontière clandestinement. Quand je suis arrivé la première fois sur le pont de Vichy pour franchir l'Allier, tout juste si je faisais pas hi-ha en arrivant en pédalant comme un forcené, c'est vraiment un bonheur. Et je pense que je vais voyager, ça va me tirer vers l'avant quand même.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Je leur ai dit que je rentrerai en janvier. J'ai 22 ans, j'habite Paris et je sais pas ce que je fais. Je suis jeune et pourtant déjà pleine de regrets. Je sens que j'étouffe, que j'ai besoin de respirer. Mais les jours, les mois, les années passent et je fais rien. Il y a quelque chose qui me tracasse. Alors un soir ordinaire, je prends mon ordi et je tape comme ça sans réfléchir travailler à l'étranger. Je tombe sur une page qui me propose une offre d'emploi dans un call center à Barcelone. Je parle pas un mot d'espagnol. Je connais pas l'Espagne. Je sais pas ce qui me prend, mais j'envoie mon CV. C'est ici que tout a commencé.
Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur.
Je leur dis au revoir. On s'embrasse. On pleure. On s'enlace. J'ai un peu peur. Et puis sans trop savoir où aller, je monte dans cet avion. Je sais pas ce que je fais. J'arrive à Barcelone un après-midi de septembre. Je monte dans un taxi en direction de l'appartement que j'ai réservé quelques jours plus tôt sur Internet. Hola ? On m'ouvre la porte. Des visages inconnus. Nous serons quatre à vivre dans cet appartement. Une Italienne, un Français, une Mexicaine. Je ne sais plus quand j'ai vu la mer pour la dernière fois. C'est le soir. La lune est claire, la Barceloneta. J'aime ce calme, cette odeur, le bruit des vagues, la chaleur. Je découvre la ville en marchant. Je ne comprends pas cet engouement pour la Rambla, Passage de Gracia, Plaza Catalunya. Mais j'aime me perdre dans les rues de Raval, Pobresec et Gracia. Ces enfants qui jouent au ballon, ces sombres ruelles, le linge accroché aux fenêtres, ces drapeaux au balcon. Enfin réconciliée avec moi-même, je suis heureuse, en paix, sereine. Sagrada Familia, Montjuic, Montserrat, Santa Maria. Je me sens bien. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je n'ai plus peur. J'ai goûté à la liberté. Je trace mon destin. Je ne vois plus d'avenir, que des chemins. Trois mois ont passé et je ne parle toujours pas castillan. Ça me fait plutôt rire. J'ai un peu honte parfois, c'est gênant. Mais je ne sais pas où je suis. Je ne me sens pas en Espagne. Je ne savais pas avant de venir qu'ici on parlait juste catalan.
Bonsoir, Anne-Lise, votre écoute.
Mon travail en call center est difficile. Je réponds aux appels de clients français. On me crie dessus. On prend plaisir à me rabaisser. Mais c'est pas grave. Je suis bien entourée. À ma table, je me lie d'amitié avec mes collègues, eux aussi tous expatriés. Oui, nous sommes différents, mais nos destins se reflètent. Nous sommes comme liés.
D'accord.
Par le choix qu'on a pris un jour de tout quitter.
Alors, je veux bien votre adresse mail, s'il vous plaît.
Et puis, il y a cette rencontre. Ce verre que nous allons boire. Son sourire. Ses timides regards. Ce désir. Cette envie de se revoir. On ne vient pas du même continent. Je suis française, elle est mexicaine. Notre histoire est une invitation au voyage qui transforme les « I'd like to see you again » en « Te quiero, te amo, je t'aime ». Faire de belles rencontres, c'est être au bon endroit, au bon moment. Au fil des jours, je me sens perdre mon identité. Ou bien je m'en découvre de nouvelles à mesure que mon cercle d'amis s'agrandit. Ensemble, nous formons l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Nous mélangeons les langues, les nationalités, les cultures, les préjugés.
C'est très beau.
C'est très beau.
It smells bonito aussi. You know, I was changing my glass and you opened it up. It's really a camera.
Il y a un an, j'ai tout quitté. Mon pays, ma famille, mes amis. Je me suis ouverte au monde, à la vie, à la liberté. J'ai pris des chemins inconnus, là où seul le cœur me guidait. J'ai pris des risques, arrêté d'avoir peur, me suis laissé porter. Je leur ai dit que je rentrerai en janvier. Je ne sais pas si je reviendrai.
Anne-Lise Morel est lauréate 2016 du prix APAGE France Culture pour Claire de Lune à Barcelone. Si tu n'as pas étudié, voyage, dit le proverbe Peul. On invite donc toute la jeunesse, d'ici et d'ailleurs, à prendre le chemin de cette drôle d'école, micro en main. Et qui sait, l'année prochaine, de nouveaux candidats, jeunes africains, francophones, viendront peut-être participer. Avis aux amateurs, le concours à Page est ouvert. Merci à la Page et à Fabrice Drouzy de Libé Voyage pour son aide précieuse. Merci aussi à tous les jeunes auteurs dont nous avons diffusé les carnets. Si vous souhaitez en savoir plus sur Eric Langsworth ou la Page et le règlement de son concours, allez sur notre site rfi.fr, rubrique émission, si loin si proche. Vos oreilles voyagent encore la semaine prochaine, même heure, mais autre destination.